Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo de l'intelligence des réseaux et je vous propose donc un parcours en trois temps. Dans un premier temps, je poserai quelques définitions, quelques notions de base sur le réseau. Ensuite, nous parlerons d'une distinction classique entre réseau hiérarchisé et réseau distribué. Et enfin, nous analyserons un possible changement de paradigme, c'est-à-dire le passage d'un système de réseau hiérarchisé à un système différent qui prendra en compte des formes plus distribuées du réseau. Alors, dans un premier temps, il faut bien signaler que le réseau technique est au cœur de la transition urbaine du 19e siècle. Donc, si on observe ce graphique qui montre le pourcentage de raccordement, c'est-à-dire le pourcentage de population raccordée aux différents réseaux techniques, il faut noter que les deux premiers, donc ces courbes partent des années 1850, les deux premiers grands réseaux qui accompagnent la transition urbaine sont les réseaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement des eaux usées. Alors, qu'est-ce qui motive le développement rapide de ces deux réseaux durant le 19e siècle, eh bien, c'est l'insalubrité des villes qui se traduit par des épidémies. Alors au 19e siècle, les grandes villes européennes ont connu de grandes épidémies de choléra. Londres, par exemple, en 1854. La France et en particulier la région parisienne, en 1832 puis en 1854. Et donc, les réseaux techniques qui ont été mis en place à cette période répondent principalement à ce problème d'insalubrité dans les villes. Donc, ces deux réseaux, ce sont le réseau, dans un premier temps, d'approvisionnement en eau potable. Ici, vous avez l'exemple du réseau de distribution des eaux de l'Ourcq à Paris, qui a été mis en place sous Napoléon Ier. Et le réseau d'assainissement des eaux usées. Donc ici, c'est une carte des collecteurs à Paris en 1862. Et donc ce réseau d'assainissement a été largement mis en place par Eugène Belgrand en parallèle de l'haussmannisation. Alors pour poursuivre, il faut d'abord poser une distinction importante entre le réseau support et le réseau service. Donc le réseau support, c'est l'infrastructure qui permet la connexion de certains lieux ou la connexion de certains, de certaines quantités, d'une certaine matière. Et le service, c'est ce qui va circuler sur cette infrastructure. Donc à titre d'exemple, le rail, c'est le réseau support. Et les véhicules qui circulent sur ce rail, le type de wagon, la fréquence des trains, etc., tout ça constitue le réseau service. Si on s'intéresse dans un premier temps au réseau support, il faut bien voir que la morphogénèse du réseau support se traduit par certaines caractéristiques et on s'arrêtera sur deux caractéristiques principales des réseaux que sont son efficacité et sa résilience. Donc sa résilience, ça veut dire sa robustesse. Hein, on se contentera de cette définition pour le moment. Et donc on peut distinguer quatre situations en fonction donc du type de réseau et en fonction de sa morphogenèse, c'est-à-dire de la façon dont il est apparu. Alors les réseaux hiérarchisés et planifiés, ce sont typiquement, donc c'est l'exemple en haut à droite, les ensembles pavillonnaires. Donc ici, c'est un ensemble pavillonnaire américain. Et donc là, on voit bien qu'il y a une hiérarchie des voies, des petites voies de desserte locale, des voies de niveau supérieur, jusqu'aux voies rapides qui relient différents ensembles pavillonnaires. En bas à gauche, on a un réseau là encore hiérarchisé, mais cette fois-ci, il n'est pas planifié, il est auto-organisé. Et alors ça, c'est le cas typique des faubourgs. Donc ici, c'est le faubourg de la ville d'Alep, mais on verrait ça dans un certain nombre de faubourgs, d'un certain nombre de villes du monde. Et donc là encore, on voit une distinction entre des petites voies de desserte locale et des voies de niveau supérieur. Et enfin, en haut à droite, c'est un réseau planifié et distribué. C'est le réseau du plan d'extension de la ville de Barcelone. Donc voilà, et c'est un plan hippodamien, un plan en damier. Et alors, il n'y a pas d'exemple de réseau qui soit à la fois auto-organisé et distribué, hein, puisque la forme, le plan typiquement hippodamien, n'émerge pas de mécanismes de mécanisme spontané. Si on s'intéresse à la résilience du réseau, il apparaît évident que le réseau hiérarchisé est beaucoup plus fragile. Donc, par exemple, un individu qui voudrait se rendre du point A au point B sur le réseau hiérarchisé ne dispose que d'un seul chemin pour faire ce trajet. Et donc, s'il y a un problème sur l'un des tronçons de ce chemin, l'usager ne peut pas se rendre du point A vers le point B. En revanche, sur le réseau distribué, si un individu veut relier le point A et le point B, à ce moment-là, il y a un très grand nombre de chemins possibles parce qu'il y a une redondance des chemins entre ces deux points. Et c'est ce qui fait que le réseau distribué est beaucoup plus robuste en cas, par exemple, de coupure d'un des tronçons du réseau. Si on s'intéresse maintenant à l'efficacité, donc ici on a un tableau du coût unitaire en euros par voyageur kilomètre sur le réseau de transport collectif francilien. Ici, on s'aperçoit que plus le réseau propose un service de grande vitesse et de grande capacité, ce qui est le cas du RER par exemple, et plus le coût est faible, et d'un autre côté, plus le service proposé est de faible vitesse et de faible capacité, et plus le coût est important. En d'autres termes, le réseau est efficace quand il structure plusieurs régimes de capacité et de vitesse, c'est-à-dire quand il est hiérarchisé. Donc, pour résumer, la hiérarchisation du réseau est directement liée aux besoins d'efficacité, mais d'un autre côté, les réseaux distribués sont nécessairement redondants, donc beaucoup plus robustes ou résilients que les réseaux hiérarchisés. Alors, à partir de cette distinction entre réseau distribué et réseau hiérarchisé, on peut analyser la période récente comme un changement de paradigme. Alors, dans le cadre de la transition urbaine, et jusqu'à récemment, il y avait une espèce de mythologie du grand réseau technique, avec l'idée que le grand réseau technique est la forme la plus performante de fourniture de services urbains, qu'il s'agisse de transport, d'approvisionnement en eau, ou bien d'assainissement des eaux usées. Il y a ensuite l'idée que la performance du réseau croît avec sa taille. Et il y a enfin l'idée que la solution aux problèmes créés par le réseau réside dans le réseau lui-même et que, par exemple, si on agrandit le réseau ou si on l'améliore avec de nouvelles techniques, on pourra résoudre ce type de problème. Donc ces grands réseaux techniques produisent des choses que l'on connaît. Donc par exemple, la station d'épuration des eaux usées de Seine-Aval à Cher, qui est la plus grande station d'épuration d'Europe et qui s'occupe des eaux usées quotidiennes de 6 millions de franciliens. Donc avec cette station d'épuration, évidemment, il y a beaucoup d'économies d'échelle, c'est un traitement très efficace. Mais d'un autre côté, s'il arrive quelque chose qui bloque la station d'épuration de Seine-Aval, ben c'est l'ensemble du système d'assainissement qui est mis en danger. Dans le domaine de l'assainissement, on a vu apparaître, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, des techniques alternatives, qu'on désigne aussi sous le nom de « contrôle à la source », qui consistent à traiter les eaux usées là où elles arrivent, là où elles tombent. Donc par exemple, dans le cas des eaux pluviales, ça consiste à retenir les eaux pluviales là où elles tombent, par des tranchées, par des puits, par exemple, au lieu de toutes les renvoyer dans le réseau et dans les collecteurs. Donc, dans le cadre dans le domaine de l'assainissement, on passe d'un paradigme du tout au réseau, où toutes les eaux usées, toutes les eaux pluviales vont au réseau d'assainissement, à un réseau plus distribué de techniques locales de contrôle à la source. Un autre exemple dans le domaine de la production et de la fourniture d'électricité, que l'on désigne sous le terme de smart grid. Alors, dans ce schéma, ce qui est particulièrement important, c'est la double flèche en bas entre la génération de l'électricité, la transmission de l'électricité et de l'autre côté le consommateur d'électricité. Et cette flèche va dans les deux sens et c'est bien ça le concept central de la smart grid. C'est l'idée qu'il y a un retour d'information permanent entre la production de l'électricité et sa consommation. Et le tout permet une gestion optimale de la demande et de l'offre d'électricité. Le développement des grands réseaux techniques d'eau, d'assainissement, de transport, d'électricité était historiquement le développement de grands réseaux hiérarchisés. Et on voit apparaître dans tous ces secteurs des systèmes alternatifs distribués ou décentralisés. Alors, pour le moment, ces systèmes alternatifs ne remplacent pas les grands systèmes hiérarchisés, mais il se dessine un futur de systèmes composites avec des assemblages de réseaux hiérarchisés et de réseaux décentralisés ou distribués. Pour conclure, est-ce qu'il est possible de parler d'intelligence du réseau support, ce que nous avons fait dans cette vidéo, sans parler du réseau service? Et bien sûr, la réponse est non, il faut s'intéresser au réseau service.